bonsoir. Entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir à l'école privée. À l'ordre du jour ce soir, comment mieux encadrer l'école privée? Une mission d'information parlementaire a remis cette semaine un rapport sur la place de l'école privée dans notre paysage scolaire et sur les contrôles que doit exercer la puissance publique sur ces établissements. Plus de 2 millions d'élèves, soit 17% des effectifs, sont scolarisés dans 7500 établissements. En effet, la plus grande majorité de ces établissements étant catholiques. Les deux rapporteurs de cette mission ne sont pas d'accord sur l'ensemble des 55 propositions qu'ils formulent, mais s'accordent cependant sur l'opacité des financement de ces écoles et le manque de contrôle qu'ils subissent de la part du ministère de l'Éducation nationale alors que l'État les finance à 75%. Nous allons en parler avec nos trois invités, avec Christopher Vesberg. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député Renaissance des Français d'Amérique du Nord et vous êtes co-rapporteur avec Paul Vanier de la mission d'information sur le financement public de l'enseignement privé sous contrat qui a été présenté cette semaine donc à la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale. Avec nous également Philippe Delorme. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire général de l'enseignement catholique. Et troisième invité, Marco Berti, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, professeur des universités en sociologie à Sciences Po et vos travaux de recherche portent sur les classes sociales et les inégalités urbaines ainsi que les inégalités scolaires.
À partir du CM1, les personnes que je fréquentais ici, et je ne parle pas de quelques personnes, mais je parle de 80% des amis que j'avais, ont commencé à remplir des dossiers d'inscription pour des écoles privées. Et mon compagnon et moi, on ne s'est pas posé de questions parce que pour nous, le premier choix, ça a toujours été le public. Je n'ai connu que ça dans mon parcours scolaire. Mon compagnon, lui, à l'inverse, a fréquenté un établissement privé non mixte, tenu par des moines. Il en a énormément souffert. L'autre point, c'est qu'on a des convictions politiques et on croit vraiment à l'école publique et à cet accès à l'éducation pareille pour tous et gratuite qu'elle offre aux enfants. Et il y a des amis qui ont fait leur scolarité dans le privé, pour lesquels, ok, c'était le seul schéma qu'ils ont connu. On n'était pas tellement étonnés de ce choix-là. Il y a des amis pour qui c'est pas le cas, qui sont intermittents du spectacle, qui sont enseignants dans le public. Alors là, on est vraiment tombés des nues.
Voilà, c'était un extrait des Pieds sur Terre sur France Culture, qui est un reportage qui s'intitulait Le choix du privé, un reportage d'Anna Benjamin réalisé par Somaya Dabesh. Est-ce que, en tant que sociologue, ce discours, vous l'avez entendu de gens qui voyaient justement cette question du privé et du public comme étant parfois surprenante parce que le parcours des parents, les idées politiques des parents ne laissaient pas toujours la place à ce qui était a priori évident parmi les choix possibles?
Oui, absolument. C'est un point de vue qu'on entend assez souvent. On termine là un travail, enfin, qui est encore en cours sur l'évitement scolaire dans la première couronne parisienne. Et on voit bien qu'il y a plusieurs communes qui sont confrontées à cette question-là. C'est-à-dire, d'un côté, une sorte de gentrification résidentielle, donc l'arrivée de classes moyennes et supérieures, dans des communes qui sont assez populaires et donc encore accessibles, en particulier en termes d'accession à la propriété, et qui scolarisent très très peu leurs enfants. À tel point que...
Très peu dans le public, vous voulez dire?
Très peu dans le public, et parfois il n'y a pas d'établissement privé dans la commune, ce qui se traduit par une scolarisation hors commune. Et ça interpelle à tel point que certaines municipalités, je pourrais la citer, comme la ville de Bagneux, dans la banlieue sud de Paris, a décidé de financer une bourse doctorale, un contrat CIFRE, précisément pour mieux comprendre...
C'est un contrat qui permet justement de financer des bourses de thésard.
Exactement.
Pour pouvoir travailler sur un sujet.
Exactement, et dont la thématique est précisément de mieux comprendre pourquoi ces catégories sociales font le choix de venir s'installer dans ces communes, mais n'y scolarisent pas autant que leur poids dans la commune, dans les établissements publics. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que c'est un bassin particulièrement pertinent, puisque à proximité, il y a la ville de Sceaux, il y a Antony, il y a Bourg-la-Reine, donc des villes beaucoup plus favorisées et qui concentrent à la fois du public attractif et du privé, les deux, puisque Bagneux a un seul établissement privé qui est beaucoup moins attractif que celui des communes beaucoup plus favorisées aux alentours.
Alors, c'est quelque chose qui est très intéressant quand on s'approche de ce sujet. Philippe Delorme, vous êtes donc, je rappelle, secrétaire général de l'enseignement catholique. Vous n'êtes peut-être pas tout à fait d'accord avec les conclusions ou certaines des conclusions de ce rapport dont on va parler avec un de ses auteurs, Christopher Vesberg, qui est avec nous. C'est de se dire, tout compte fait, on parle du privé comme étant, disons, un enseignement homogène homogène sur le territoire. Or, ça n'est pas un enseignement homogène. Vous êtes beaucoup plus présent dans certaines régions de France, dans certaines villes de France, beaucoup moins dans d'autres, beaucoup moins dans d'autres espaces plus ruraux, alors que vous êtes peut-être parfois plus présent dans d'autres espaces plus urbains. Donc, il y a une sorte d'hétérogénéité, justement, de cet enseignement catholique en France.
Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a une grande hétérogénéité. Je dirais que c'est un peu notre force. C'est qu'il n'y a pas, justement, cette uniformité qui ne permet pas de proposer un projet différent. Je crois que chaque établissement a son histoire. Il est uni par un projet éducatif spécifique. Hein, et notre projet éducatif, c'est ce qui attire les familles. Car...
C'est toujours le projet éducatif qui attire les familles.
Oui, mais contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas d'abord l'évitement. J'ai été chef d'établissement en Seine-Saint-Denis. Et j'ai reçu un certain nombre d'élèves et pendant un certain nombre d'années.
Où il faut dire le Seine-Saint-Denis, où il n'y a pas beaucoup d'établissements privés.
Non, on n'est pas très nombreux.
Voilà, faut quand même le dire.
Non, on n'est pas très nombreux. Eh bien, peut-être qu'au départ, le choix des familles, c'était de se dire, tiens, je préfère aller dans le privé parce que le collège public ou l'école publique est pas, correspond pas à ce que je souhaite. Mais en réalité, étant donné que l'inscription s'est faite sur une rencontre, c'est vraiment un partage et une adhésion à un projet. Donc les familles qui viennent chez nous, c'est pas par rejet du public, c'est d'abord par adhésion à un projet éducatif qui est particulier, qui correspond à notre caractère propre.
Alors justement, ce projet éducatif, vous en débattez dans le rapport que vous avez co-écrit, Christopher Wasberg. Je rappelle que vous êtes donc député Renaissance des Français d'Amérique du Nord et que vous étiez avec Paul Vanier pour la rédaction de ce rapport. Paul Vanier qui est député LFI. Alors on voit qu'il y a des tensions parce que quand on le lit, ce rapport, il y a des propositions des uns, des propositions des autres, et puis des propositions communes. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à réagir à cette importance de l'enseignement privé, même si numériquement ça n'est pas le plus important, loin de là, dans notre pays, et peut-être aussi sur des manquements de la puissance publique face au contrôle, face en particulier au financement et à l'opacité de ces financements de l'enseignement privé?
Alors, pour répondre très factuellement à la question que vous me posez, c'est un rapport de la Cour des comptes qui est
l'année
paru
dernière,
en juillet 2023, et qui a pointé de façon assez claire un manque de transparence et un manque de contrôle du privé sous contrat. Et c'est à ce moment-là que notre commission, donc qui n'était pas une commission d'enquête, hein, mais qui était bien
une mission
d'information, comme on en a plusieurs par an, et donc les groupes politiques se réunissent, et un des thèmes qui a été choisi, c'était de prolonger un peu la réflexion qui a été faite sur ce rapport de la Cour des comptes.
Un rapport de la Cour des comptes qui pointait d'abord effectivement cette question de l'opacité financière, puis aussi le manque de mixité sociale, parfois dans cet enseignement privé.
Exactement, et du coup on a fait un plan en trois parties. D'abord sur l'évaluation, qu'est-ce que représente aujourd'hui le financement public sous contrat, une deuxième partie sur les contrôles, et une troisième partie sur en fait les contreparties. Alors c'est évidemment aussi d'une certaine manière la mixité scolaire, parce que je pense que en fait au départ ça fait partie aussi intégrante du modèle éducatif français, qui est très attaché je pense à l'éducation et à ses enjeux de mixité, de faire de l'école en fait un lieu de rassemblement pour tous, et qui fait, je pense, partie intégrante de notre cadre républicain. Et donc on a essayé de s'intéresser à qu'est-ce qui pouvait le renforcer, qu'est-ce qui avait provoqué peut-être ce décalage, parce qu'encore une fois, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais on est dans un contexte où depuis 40 ans, le sujet a souvent été évité par crainte.
Il n'y a pas que l'évitement scolaire, il y a l'évitement du problème
Je pense que c'était assez intéressant d'en parler avec notamment certains ministres de gauche qu'on a pu auditionner, et qui nous ont dit qu'ils avaient conscience que ça faisait partie peut-être des enjeux qu'il fallait traiter, mais que par rapport au risque de réanimation du guerre scolaire, ils préféraient utiliser d'autres priorités politiques.
Guerre scolaire, c'est un peu exagéré.
Bien sûr,
tout le monde a en
d'accord.
tête 1984, les lois Savary et les plus grandes manifestations qu'on avait connues depuis la Seconde Guerre mondiale dans les rues en France, mais ça n'était pas vraiment une guerre scolaire. Enfin, il y avait peut-être cette idée de guerre, mais c'était plus une guerre rhétorique. Vous l'avez vécu, j'imagine.
Oui, moi j'ai vécu, M. Wasberg, non, parce qu'il est né en 85. Qui nous a dit ça l'autre jour.
Un an trop tard.
Effectivement, j'ai vécu. D'abord, je vais revenir sur le terme d'opacité, parce que ce rapport donne l'impression que les établissements de l'enseignement catholique, les établissements privés, particulièrement l'enseignement catholique,
97% c'est l'enseignement catholique.
On est très visé, cacheraient quelque chose. Il n'y a pas d'opacité chez nous. Je rappelle quand même que au conseil d'administration, une fois par an, est invité pour la présentation des comptes, les élus, sont invités les élus locaux, communes, départements, régions. Je rappelle que pour les établissements qui reçoivent le plus de subventions, il y a un commissaire aux comptes qui valide les comptes. Donc, je disais, il n'y a pas d'opacité. Le manque de contrôle, il existe, mais il ne vient pas de nous.
Vous renvoyez la responsabilité à un État qui ne vous contrôle pas suffisamment.
Exactement. C'est pas de notre fait s'il n'y a pas ce contrôle. Ouais. Donc, moi, je suis pour la transparence et je suis pour le contrôle.
Oui, d'autant que, comme je le disais, vous êtes financé, enfin, les établissements sont financés à 75% par des fonds publics.
On est financé à 75% par des fonds publics, exactement, mais un élève du privé coûte deux fois moins cher qu'un élève du public au contribuable.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que, compte tenu du fait, là, ce sont les chiffres de l'ADEP, hein, donc je ne les invente pas, compte tenu du fait que les dépenses d'investissement sont soit interdites au premier degré, soit limitées à 10% dans le cadre de la loi Fallou, les charges immobilières...
La loi Fallou, dont il faut rappeler qu'elle date du milieu du 19e siècle.
Oui, absolument, qui permet d'apporter un financement public d'aide à l'investissement dans la limite de 10% du budget de fonctionnement. Donc, si vous voulez, toute la charge... C'est essentiellement ça la différence, il n'y a pas que ça, hein, mais essentiellement ça, c'est toute la charge immobilière revient aux familles.
Marco Auberti.
Oui, moi je pense qu'il faut rappeler deux choses importantes. La première, vous l'avez dit, c'est la grande diversité socio-territoriale de la présence de l'enseignement privé en France.
Enfin, la moitié des élèves en Bretagne sont dans le privé,
ou
c'est
même
ça ?
Dans l'unité urbaine de Lille, c'est 45% des élèves qui sont au collège.
En revanche, dans la Creuse, c'est 5%.
5% dans la Creuse.
Dans l'Aveyron, 35%.
20% à Paris. Par contre, 18% à Toulouse. Donc on voit bien, et si on élargit aux territoires ruraux, on voit bien qu'on a des configurations très très différentes. Mais ce sont des configurations très différentes aussi du point de vue de la mixité sociale. Et je trouve que ça pose la question de placer le débat au niveau national lorsqu'on sait qu'il faut être au plus près des réalités locales pour résoudre cette question de la mixité.
Voulez dire qu'en s'intéressant à l'école privée et pas spécifiquement à telle école privée dans tel territoire, c'est se tromper d'une certaine manière.
Oui, absolument, parce qu'on voit bien que ça n'a pas de sens dans certains territoires. Le profil social des établissements privés est identique, voire parfois
c'est
plus.
C'est le cas en Bretagne, par exemple.
Voilà, exactement, et dans d'autres régions.
Et est identique à l'école publique.
Bien sûr, et dans beaucoup de territoires ruraux, il n'y a pas de différence de composition sociale. En revanche, dans les grandes métropoles, et surtout à Paris, il y a une situation exacerbée de séparatisme social, pour reprendre le terme utilisé par François Dubet et Najat Vallaud-Belkacem. On voit bien à quel point, dans les grandes métropoles, et surtout dans la région parisienne, la sélectivité sociale de l'enseignement privé se renforce. Et ça, on le mesure maintenant avec des nouveaux outils qui étaient beaucoup moins utilisés auparavant, et qui permettent de décomposer les facteurs d'explication de la ségrégation scolaire. Et on voit bien que c'est la différence de composition sociale entre les deux secteurs qui ne cesse de croître et qui pose un problème que vous avez indiqué de quelle école on veut, quelle est la fonction de rassemblement, de confrontation à l'altérité de l'école.
Philippe Delorme et puis ensuite Christopher Weisberg.
Je crois qu'effectivement, historiquement, l'enseignement catholique est fortement implanté dans les grandes métropoles. Et du coup, on le sait, ces métropoles se sont gentrifiées d'une façon considérable. Paris, je lisais l'autre jour...
Donc ce que vous dites, c'est que c'est pas tout à fait de votre faute, c'est parce que...
C'est pas tout à fait de notre faute, c'est vrai, parce qu'on a perdu notamment toutes les classes moyennes ou classes moyennes inférieures qui ont quitté Paris ou quitté les grandes métropoles. C'est une réalité. Et je dis, j'affirme, et ça c'est une réalité aussi, que jamais un chef d'établissement refuse d'inscrire un élève parce qu'il est de conditions sociales modestes. Vous me dites, si on me dit parce qu'il a un niveau scolaire insuffisant, je ne donnerai pas ma main là. Hein. Mais sur la condition sociale modeste, je peux affirmer que ce n'est pas le choix des chefs d'établissement et que malheureusement, et c'est tout une partie de l'objet du protocole que j'ai signé avec Papendiaï le 17 mai dernier, c'est justement comment finalement lutter contre cette autocensure des familles qui viennent pas frapper à notre porte. Parce que c'est dans la vocation de l'enseignement catholique que d'accueillir des élèves issus du milieu défavorisé.
Marco Auberti.
Il y a quand même quelque chose d'assez étonnant. Moi, je vous fais part aussi de mon expérience de chercheur en sciences sociales. Quand je vais enquêter dans les établissements publics, les portes sont grandes ouvertes. Je n'ai aucun problème pour avoir accès, d'ailleurs, que ce soit par l'ADEP ou directement par les établissements. Et il y a beaucoup d'établissements privés qui refusent de nous ouvrir leurs portes pour des recherches sociologiques sur les motivations du choix du privé, sur l'articulation entre les choix résidentiels et les choix scolaires. Donc, et même chose sur pourquoi autant d'opacité sur les procédures de sélection des élèves. Puisque moi je pense qu'il y a quelque chose d'important de ce point de vue-là. On pourrait très bien reprendre ce que vous proposez, c'est-à-dire reconfigurer la dotation publique au prorata de l'effort consenti pour la mixité, mais il y a un danger qui serait d'aspirer les meilleurs élèves de milieu populaire au sens scolaire dans les établissements privés. Et donc, pour que ça marche, il faut qu'il y ait un contrôle sur les procédures de recrutement des élèves.
Philippe Delorme.
Alors là, c'est une atteinte directe à la loi Debré, et c'est une erreur.
Et rappelons que la loi Debré, c'est 1959, donc, mais qu'elle a été quand même profondément remaniée depuis 1959.
Parce que la loi Debré et la Constitution garantissent la liberté de choix des familles, donc c'est vraiment une atteinte, ça, très grave. Donc c'est une remise en cause de la loi Debré. Ce n'est pas comprendre notre processus d'inscription. Je vous l'ai dit, j'étais chef d'établissement. Moi, si j'avais sélectionné sur des dossiers avec des critères, comme on veut faire dans le public, des critères de points, etc., il y a des gamins...
Non, mais dans le public, c'est la sectorisation. Parle du collège, dans le public, il n'y a pas 10 000 procédures, c'est la sectorisation.
Il y a des gamins, ou dans le lycée public, c'est pas forcément la sectorisation, à Paris, on sait très bien qu'il y a une réforme. Il y a des gamins que j'aurais certainement pas pris, mais suite au rendez-vous, et parce qu'il s'est passé quelque chose dans ce rendez-vous, et parce que j'ai senti une vraie adhésion au projet éducatif proposé de la famille et du gamin, eh bien je l'ai accueilli. Donc on ne pourra jamais vous donner des critères parce qu'on ne fonctionne pas comme ça.
Est-ce qu'on peut dire effectivement que cette question de la transparence ou du manque de transparence est une question qui est centrale dans le rapport que vous avez co-rédigé avec Paul Vanier, Christopher Weisberg?
Oui, je le crois, parce qu'on a bien vu le débat, et c'est vrai que c'est très important déjà de faire une première réflexion, qui est une réflexion générale et qui est fondamentale, c'est qu'il y a 7500 établissements qui sont aujourd'hui reconnus dans la loi Debré, puisque en fait la loi Debré, elle met un cadre et elle dit qu'il y a deux interlocuteurs, l'État et les établissements, sans passer d'ailleurs par des organisations qui, par la pratique, se sont construites, comme notamment le secrétaire général de l'enseignement catholique. Mais si on revient donc à cette différenciation territoriale, il y a des cas, et vous l'avez dit monsieur, qui montrent très bien qu'on a un accroissement depuis une vingtaine d'années du manque de mixité, d'un phénomène que certains appelleront de ségrégation. Moi, je fais attention à ce terme-là parce qu'il peut être aussi connoté, et que je viens des États-Unis. Mais d'une certaine manière, notre mission aujourd'hui, et je pense que c'était une première étape et que c'était important que Pape Ndiaye s'en saisisse il y a quelques années.
L'année dernière, en fait.
C'est assez récent, il y a 11 mois, et d'ailleurs vous êtes en train de répliquer. Mais parmi mes propositions, et c'est des propositions que j'assume, qui diffèrent aussi de celles du co-rapporteur.
De Paul Vanier.
Je considère qu'il y a évidemment besoin d'avoir un certain nombre de transparences, puisque parce que vous avez une autonomie, un caractère propre, vous ne pouvez pas, et parce qu'on est dans un cadre constitutionnel qui ne le permet pas, être attaché à la carte scolaire, il faut quand même pouvoir piloter un minimum certains critères. Et évidemment, en Bretagne,
On vous répond autonomie des établissements.
Mais l'autonomie des établissements, c'est là où je pense que j'ai un problème quand même un peu de fond sur cette autonomie. L'autonomie, c'est, vous avez le droit d'avoir une pédagogie qui est la vôtre. Mais le choix des élèves, je suis désolé, je ne vois pas en quoi ça fait partie de l'autonomie. Les parents, la liberté, c'est la liberté des parents, c'est la liberté des familles, c'est pas la liberté des établissements. Il faut revenir quand même sur les notions fondamentales. Le caractère propre, c'est le caractère pédagogique qui est différent et qui est singulier. Maintenant, la liberté de choix, c'est la liberté des parents. Et donc, il y a deux propositions, et je finirai là-dessus parce que ça permet de montrer qu'il y a des choses un peu concrètes là-dedans. La première, c'est, comme vous l'avez dit, de s'inspirer du cadre belge qui, en fait, parce qu'il y a un très haut financement public, demande qu'en échange, il y a un certain nombre de critères dans les endroits qui pratiquent la sélection.
Ou le cas néerlandais qui est aussi intéressant.
Qu'est-ce qui vous chiffonne là-dedans?
Parce qu'à partir du moment où vous commencez à mettre des systèmes en fait de quotas, c'est un principe de quota que vous proposez. On peut le dire que c'est un principe de quota. C'est une atteinte à la liberté de choix des familles. C'est une atteinte à la liberté de choix des familles. Donc c'est une remise en cause de la liberté fondamentale de la loi Debré, qui a été proposée par Debré et qui est constitutionnelle. Donc si vous voulez, je ne crois pas, et je suis désolé de le dire, mais que ça soit par la contrainte qu'on obtiendra des évolutions. J'ai signé ce protocole.
Le protocole, il n'est pas contraignant déjà. Vous l'avez signé avec Pape Ndiaye.
C'est justement parce que c'est l'objet d'un échange long avec Pape Ndiaye. Je veux dire, avec Pape Ndiaye, on s'est bien entendu, et je peux vous assurer qu'au départ, nos positions n'étaient pas les mêmes, et qu'on n'est pas tout à fait issus du même système. Mais si vous voulez, Papa Ndiaye a compris nos contraintes.
Mais pourquoi justement vous craignez cette question de contraintes supplémentaires?
Mais parce que c'est une question de liberté. Moi, je suis favorable à la liberté. Et puis on s'imagine aussi que tout le monde ne veut pas rentrer comme dans l'enseignement catholique. Tout le monde n'a pas envie d'inscrire son enfant dans une école catholique. Tout le monde n'a pas envie de frapper à notre porte. Donc je veux dire, c'est qu'il soit riche ou pauvre, hein, d'ailleurs. Hein, mais si vous voulez, cette liberté, elle est fondamentale.
Les gens choisissent rarement les établissements catholiques pour des raisons confessionnelles.
Oui, vous trompez. Ils choisissent pour un projet éducatif.
Mais oui, c'est ce que je vous dis.
Pour un projet éducatif.
Oui, pas forcément.
C'est pas sûr, mais moi, c'est mon métier d'en être sûr.
Parce que moi, j'ai beaucoup de gens que je rencontre et qui
les enquêtes le montrent aussi. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, lorsqu'il s'agit de mettre sur le même plan l'engagement du secteur public et du secteur privé à garantir un certain niveau de mixité dans l'ensemble des établissements, vous formulez ça en termes de contraintes. Si on considère qu'il y a un enjeu sociétal à produire un système éducatif où on est confronté à la diversité de la société française, pourquoi vous le reformulez immédiatement en termes de contraintes, contradictoires avec la loi Debré, insupportables, etc. C'est ça que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui vous gêne dans l'objectif général de produire sur le plus grand nombre d'établissements des contextes de mixité? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre.
Le projet de plus grande mixité, je suis pour. Et c'est bien pour ça que j'ai signé ce protocole avec Papa Ndiaye, et il le traduit bien, cette volonté d'y arriver. Ce que je dis simplement, c'est que ce n'est pas par la contrainte qu'on va y arriver, et que c'est pas parce qu'on va dire, et concrètement, comment je fais?
De toute façon, cette mission ne donne pas lieu, a priori, à un texte, puisque en tout cas, et visiblement, ça sera difficile à mettre en œuvre dans la discussion qu'on peut avoir avec vous, mais néanmoins, donc, d'une certaine manière, ça fait partie du débat. Ça fait partie d'un débat démocratique à l'intérieur d'une société démocratique que de se poser ce genre de questions.
Mais depuis qu'on a signé ce protocole, nous, on s'est mis au travail, je veux dire. C'est-à-dire qu'on s'est engagé à publier une base de données avec tous les tarifs, les aides, les contributions des familles, les aides publiques, etc. Tout ça va être opérationnel dans le courant de l'année prochaine. On s'est engagé à moduler les contributions des familles en fonction des revenus et de généraliser ça. J'ai obtenu aujourd'hui, vous voyez, vous allez avoir un scoop, qu'à partir de 2025, il y a un tarif spécifique pour les élèves boursiers. J'ai obtenu aujourd'hui. Donc, si vous voulez...
Vous l'obtenez auprès de ceux qui sont adhérents de ce secrétariat.
De 7200 établissements, alors il y a une autonomie, hein, je ne fais pas toujours... vous savez, c'est l'inverse de l'organisation du ministère de l'Éducation nationale. Hein. Tout part dans l'établissement, et moi je suis...
Oui, mais c'est un des enjeux. Il y a un enjeu de responsabilisation. C'est-à-dire que je veux dire, on vous a auditionné deux fois, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait attention dans les propos que je tenais dans ce rapport, d'éviter la stigmatisation. Parce que très franchement, on est face à, dans la grande majorité des cas, des acteurs qui veulent jouer le jeu. Mais il y a un enjeu de responsabilisation. Et je vais vous donner un exemple. Votre organisation, au fond, elle a un caractère qui n'est pas contraignant pour ses membres. Ça veut dire que j'ai entendu, moi, des gens sur le terrain me dire, au fond, le GIEC... Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Le secrétariat général de l'enseignement catholique. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais nous, on a notre autonomie. Et évidemment que le protocole, il va dans le bon sens, et c'est très bien ce que vous faites. Et moi, je pense que je vous fais confiance, je pense que vous allez dans le bon chemin, mais il y a aussi un enjeu de responsabilité. Étant donné que ce sont les établissements qui, au niveau de leur autonomie, finalement, ne sont pas contraints par des règles spécifiques qui viendraient du secrétariat général d'enseignement catholique, c'est difficile de responsabiliser dans un protocole, même si ça va se faire probablement bien dans plusieurs cas, il y aura toujours des gens
qui... C'est notre force.
C'est une force et une faiblesse. Admettez que ça peut aussi être une faiblesse.
Dans toute liberté, il y a une faiblesse.
Exactement.
On reconnaissait qu'il y a quand même un déséquilibre. Parce que d'un côté, on a un secteur qui a l'obligation de respecter, je parle encore une fois du niveau du collège, qui est le plus important, la sectorisation. Donc, les élèves sont affectés en fonction du lieu de résidence des parents. C'est quoi pour vous la liberté des gamins qui sont dans des quartiers très ségrégés, du point de vue socio-résidentiel, très homogènes, et dans lesquels l'école reflète le niveau de ségrégation résidentielle? Donc là, parce que c'est souvent très lié au fait que, en particulier dans la banlieue parisienne, première et deuxième couronne, les établissements privés sont très inégalement répartis sur le territoire. Et donc, on l'a bien vu au moment de l'assouplissement, le pseudo-assouplissement de la carte scolaire sous le gouvernement Sarkozy. Qu'est-ce qui qui s'est passé? Nous, on a fait une étude qui a été publiée dans la revue de l'ADEP en comparant la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine. Les Hauts-de-Seine, département beaucoup plus privilégié, avec des contrastes sociaux très forts entre établissements, publics et privés, beaucoup plus homogène du côté de la Seine-Saint-Denis. Très peu de parents de classe populaire et pour une part d'origine immigrée se sont emparés de la possibilité de choisir un autre établissement public plus éloigné. Parce que c'est pas évident pour beaucoup de familles populaires. Qu'est-ce qui s'est passé dans les Hauts-de-Seine? On a vu des classes moyennes supérieures se déplacer d'un cran pour aller chercher le collège qui a un IPS 5-8 points au-dessus.
Donc on voit bien que
traiter cette question scolaire dans les métropoles, ça ne peut pas se faire sans rattacher ces questions-là à des politiques urbaines de déségrégation résidentielle.
Philippe Delorme. Je partage entièrement ce point de vue, monsieur, parce que je pense qu'on fait porter beaucoup de responsabilités à l'école, pas que l'école privée ou publique, hein, c'est pas un débat école publique et privée, c'est-à-dire que cette situation aujourd'hui de l'école, c'est quand même la conséquence de politiques urbaines qui n'ont pas été adaptées. En Seine-Saint-Denis, on pèse vraiment très peu, puisqu'on pèse moins de 9%. Donc, je veux dire, nous, on joue très peu.
Mais pourquoi vous n'avez jamais cherché à vous installer plus?
Eh bien, figurez-vous que ça, parce qu'on nous le refuse. On nous le refuse. Moi, quand j'étais...
C'est-à-dire?
Ben, c'est-à-dire que...
Qui vous le refuse?
Le rectorat. Le rectorat. Quand j'étais à Créteil, là, c'était à Créteil, c'était dans le diocèse du Val-de-Marne, j'ai dit à la rectrice de l'époque, moi, je suis prêt à ouvrir un collège au milieu de la cité d'Orly. Mais elle n'a pas voulu. On nous le refuse, ça.
Oui, en même temps, vous voyez, j'ai été invité à ouvrir la conférence nationale de l'enseignement jésuite en France. Ça va peut-être vous surprendre.
Non, pas du tout.
Et ils engagent là un projet très innovant dans les quartiers nord de Marseille, avec comme au cœur de leur projet la mixité. C'est quand même incroyable que ce soit l'enseignement privé jésuite qui prenne l'initiative d'établir un établissement de ce type-là dans les quartiers nord de Marseille. Donc on voit bien que cette question-là,
elle interroge à la fois l'État, les collectivités territoriales et évidemment...
On est prêt à y aller, nous.
Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne faut pas stigmatiser les collectivités territoriales qui font ce choix. C'est un des points sur lesquels, là aussi, j'ai une divergence avec Paul Vanier. C'est que je pense au contraire que...
Paul Vanier qui est votre co-rapporteur.
Qui est mon co-rapporteur. Et parce que, comme toujours, il faut se rendre compte qu'il y a des constats, puis après, il y a différentes approches qui peuvent être fondamentales. Moi, je pense qu'aujourd'hui, un des éléments importants, c'est de renforcer, au contraire, le poids des collectivités territoriales. Donc, je suis contre la loi, sa proposition qui consiste à supprimer certaines lois qui donnent ces obligations. On parle de la loi Falloux, de la loi Astier. Moi, je suis contre parce qu'au contraire, je pense qu'il faut les renforcer et les remettre dans le système et qu'elles assument leur choix politique.
Quand la Cour des comptes, l'année dernière, dans son rapport, affirmait qu'un contrôle bien fait permettrait, par exemple, de vérifier qu'un professeur rémunéré par l'État n'enseigne pas sur son temps de service à des élèves qui sont scolarisés dans une classe hors contrat. C'est-à-dire que les heures d'enseignement payées par les chefs d'établissement soient bien réalisées, tel que ça doit être le cas dans l'enseignement public. Qu'est-ce que vous répondez à la Cour des comptes sur ce point-là, Philippe Delorme? C'est-à-dire l'idée que peut-être l'État paye pour un enseignement sous contrat et que certains des enseignements se font hors contrat.
Honnêtement, d'abord, on a très très peu de classes hors contrat dans nos établissements sous contrat, parce que ça coûte très cher. Et ensuite, je peux assurer que le contrôle existe, parce qu'en fait, il y a des inspecteurs, on envoie tous les PV d'installation des enseignants au rectorat, donc il y a un contrôle du rectorat. Après, on n'est jamais à l'abri...
Mais vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas suffisamment de contrôle de l'État.
Non, contrôle financier. Financier. Ouais. Les contrôles pédagogiques, ils se font au même rythme et au même niveau que l'enseignement public. C'est-à-dire pas beaucoup, hein, je le reconnais. Parce que dans l'enseignement public, aujourd'hui, un professeur est inspecté 3 fois dans sa carrière. Donc, vous voyez, c'est pas beaucoup.
Oui, je crois que dans votre rapport, où j'ai lu ça quelque part...
C'est pas le même contrôle. C'est-à-dire que là, on parle du contrôle pédagogique. Voilà. Le contrôle pédagogique, il est assumé probablement à peu près à la même hauteur entre le public et le privé. Donc, c'est pas le sujet. Le problème, c'est que aujourd'hui, la direction de l'éducation nationale qui s'occupe du privé, c'est justement la direction financière. Et tout le contrôle du privé est vu d'une façon purement financière, purement comptable. Et nous, ce qu'on dit, c'est que justement, c'est un des enjeux. Parce que par rapport à cette autonomie, c'est une chose, c'est l'autonomie, mais il y a un contrôle budgétaire et financier qui, en fait, est très complexe à mettre en œuvre pour les directions des finances publiques qui se retrouvent avec énormément d'informations. Et comme fondamentalement, ces organisations, c'est pas des organisations mafieuses, elles font les choses plutôt bien, il n'y a généralement aucun problème à ce niveau-là. Mais par contre, et c'est là la difficulté. C'est là où des cas comme Stanislas deviennent des cas qui sont embêtants. C'est que ce qui révèle ces cas-là, c'est généralement une fuite dans la presse ou autre. Et donc, il faut réussir à la fois à avoir un contrôle, qui est un contrôle administratif, qui est un contrôle de gestion, qui soit plus fort sur le projet et justement sur l'autonomie pour y déceler ceux qui posent problème.
Mais ça, vous ne l'acceptez pas ou vous ne l'entendez pas?
Si. Ah mais moi, les contrôles, j'ai aucun souci avec les contrôles parce qu'on verra et qu'on constatera qu'on fait bien notre travail. Si vous voulez, c'est toute la difficulté de ce rapport et qui aujourd'hui met en ébullition toute la communauté de l'enseignement catholique. Hein. J'ai dû calmer, je suis obligé de modérer un peu la réaction des parents. Les communautés éducatives sont extrêmement blessées par ce rapport parce que de quelques cas particuliers, on en fait des généralités et tout ce rapport est dans la suspicion. Et donc, on a l'impression qu'à lire ce rapport, et beaucoup de gens l'ont lu maintenant, que tous les établissements sont des truands, que tous les chefs d'établissement sont
C'est pas tout à fait ce qu'on lit dans le rapport.
Et avec quand même l'air de la suspicion. Enfin, quand vous dites, il n'a pas été possible d'exclure que, il est possible que donc.
Faute d'un contrôle généralisé, en fait, on se retrouve avec tous les cas qui posent problème. Mais ça, si vous voulez, malheureusement, c'est quand on fait
avec
un rapport, c'est forcément
généralisé.
Mais non, justement, je fais très attention de ne pas les généraliser. Et je le redis, je le dis à votre antenne, il ne faut pas généraliser.
Merci de le
dire. Et il faut justement trouver les comportements qui sont et qui ne sont pas l'immense majorité des cas.
Marco Bertini. Oui,
je pense qu'on pourrait aussi imaginer d'autres formes de partenariat ou d'implication de l'enseignement privé dans la production de la mixité scolaire. Il y a effectivement, on est prisonnier à la fois de l'échelle municipale et de l'échelle départementale pour la sectorisation. Donc pour l'école à l'échelle de la commune et du département. Et on sait bien que surtout dans ces grandes métropoles où se posent le plus durement les questions de ségrégation scolaire, il y a des échelles intermédiaires de bassins scolaires qu'on pourrait qualifier de bassins scolaires où on a des communes très contrastées, des quartiers très contrastés et ça oblige à plus d'intercommunalité, plus potentiellement de collaboration entre l'enseignement public et privé pour imaginer des formes de régulation, je parle pas de contraintes, à ces échelles-là pour mieux, pour apaiser aussi les parents du point de vue des écarts sociaux potentiellement visibles.
Comment imaginez-vous une telle capacité justement de remettre de la discussion là où il y a plutôt de la confrontation?
Il faut, ça a été indiqué tout à l'heure, c'est vrai que les élus sont tout à fait conscients du risque politique que comporte le fait de poser la question de la mixité sociale et scolaire. Ils en sont tout à fait conscients. Et donc, il faut essayer de dépasser ce risque-là pour mettre sur la table la question, qui d'ailleurs pose aussi la question des politiques urbaines. Je vous prends un autre exemple, très rapidement, la loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, qui oblige à construire 25% de logements sociaux dans les territoires urbains.
Avec pas mal de contournements.
Mais cette loi, elle est très bien, en même temps, elle pourrait être encore plus efficace si elle prenait en compte l'échelle inframunicipale et les secteurs scolaires. Et là, l'enseignement privé pourrait très bien être impliqué dans des reconfigurations des bassins de recrutement des établissements, par exemple.
Philippe Delorme.
Une réflexion autour pour pas favoriser une plus grande mixité, je suis absolument pas hostile, au contraire. Après, il y a une réalité aussi qui est jamais évoquée, c'est que on nous dit qu'on est financé à 75%, mais les 25%, il faut les trouver aussi. Et quand on dit 25%, c'est souvent plus de 25% dans notre budget de fonctionnement. Je veux dire, aujourd'hui, on a des charges qui augmentent, et donc on est obligé de trouver un équilibre financier. Donc là, on a une vraie difficulté, c'est-à-dire que il y a aussi cette réalité économique qu'il faut observer, parce que et c'est pour ça que je suis pour les contrôles financiers, parce qu'on constatera que nos établissements sont loin d'être riches. Aujourd'hui, 30% de mes écoles primaires isolées qui ont une capacité d'autofinancement inférieure à 5%. Donc on voit bien qu'il y a une fragilité économique. Donc faut pas s'imaginer que c'est aussi simple que ça de trouver cette bon équilibre entre différentes catégories de personnes, etc.
Mais en quoi ça vient contredire l'objectif de mixité? C'est ça.
Parce qu'il y a un équilibre économique à trouver, parce que vous pouvez pas demander la même contribution des familles. C'est pas gratuit, oui, l'école catholique.
Du coup, le public assume dans sa.
Mais c'est gratuit pour eux.
Mission essentielle.
Mais c'est gratuit pour eux. Nous, c'est pas gratuit. Comment vous faites pour équilibrer les choses?
Christopher Weisberg.
Déjà, il y a un point qui est très important, c'est on l'a vu par exemple à Marseille.
Vous avez fait une partie de votre mission à Marseille.
On a fait un déplacement à Marseille. Et comme vous dites, une politique qui viserait à avoir plus de mixité, ça dépasse simplement uniquement le cadre scolaire. Donc évidemment, la loi SRU et le fait d'avoir des logements sociaux qui permettent dans des quartiers d'avoir un peu plus de mixité, ça correspond évidemment au genre de politique qu'il faut renforcer et qui sont très compliquées parce qu'encore une fois, le phénomène de gentrification, c'est un phénomène qu'on retrouve partout, partout dans le monde, en tout cas, je dirais pas, j'aurais pas la prétention de dire partout dans le monde, mais dans ma circonscription, aux États-Unis, au Canada, dans plein de pays d'Europe, on observe le même problème. Et donc, pour nous, on a deux armes. On a l'arme de la loi SRU, du logement social en France, et on a aussi ce phénomène qui est très important pour moi, qui est de créer de la mixité sociale dans les écoles. Et ces deux points-là, il faut bien sûr être en mesure et être capable de travailler avec des établissements privés, mais il faut absolument que vous travaillez aussi avec nous pour la renforcer. Et on reparlera de l'exemple parisien. Mais l'exemple parisien est typiquement...
C'est un véritable exemple, la croissance, effectivement.
Et c'est ce qu'on dit en conclusion privé. Du rapport. On est en conclusion du rapport, et peut-être que la conclusion du rapport, quelque part, elle s'applique encore plus à Paris qu'au reste, parce que le reste est plus compliqué. Mais on arrive à lutter contre ce phénomène d'évitement, d'une certaine manière, de certaines personnes, de certaines familles, du public pour le privé, par justement un renforcement de cette mixité, soit on risque d'avoir deux systèmes parallèles.
Oui, Philippe Delorme.
Non, mais c'est... Encore une fois, la mixité sociale et scolaire, nous y sommes favorables. Et quand on regarde l'histoire de l'enseignement catholique, on sait très bien que l'enseignement catholique s'est adressé d'abord aux plus pauvres. Et que les projets des jésuites à Marseille, on l'a soutenu, on l'a accompagné. Et que dans le protocole, justement, il y a la possibilité, mais on veut nous réduire ça dans le rapport, de créer des annexes à condition que ça soit dans des lieux de mixité sociale et scolaire. Et je pense qu'effectivement, c'est en s'implantant. Et moi, je suis très vigilant pour pas piquer, entre guillemets, les bons élèves boursiers. Ça, je trouve ça... C'est un danger possible. Et je crois très fermement que l'enseignement catholique s'honorerait de s'implanter au milieu des cités.
Mais de le vérifier. Vous avez parlé des annexes. Exactement. Nous, une des propositions qu'on fait, c'est que quand il y a une annexe qui est créée, le recteur puisse donner. Moi j'y crois parce que.
Mais c'est
Paul Vanier qui le dit. Moi, je dis pas un kilomètre justement parce que je veux permettre au recteur. Parce que moi, je veux créer de la coopération.
Mais c'est normal, c'est le boulot du recteur. Hein, c'est le recteur, c'est lui qui fait la carte scolaire.
Mais dites-nous justement, il y a un point et on arrive au terme de la discussion. Mais il y a un point sur lequel je ne vous ai pas encore interrogé les uns les autres, mais très brièvement, la question de l'éviction des élèves dans les classes qui sont, disons, compliquées, qui fait effectivement un certain succès de l'éducation privée, à savoir, effectivement, qu'on garde les bons élèves et pour arriver à des taux de réussite au bac en particulier, qui sont très très importants. Dans ce rapport, il y a cette question de l'éviction des plus mauvais, d'une certaine manière, pour garder les meilleurs dans les classes. Qu'est-ce que vous en dites de cela?
Je condamne. Très clairement, vous voulez une réponse courte? Je condamne. Fermement. Fermement.
Et surtout, ça a quand même des effets pervers, puisque du côté des établissements publics, on a des classes, des établissements qui concentrent beaucoup d'élèves en grande difficulté. Et ce que montrent les études, c'est que le temps consacré à la discipline, à établir l'ordre scolaire minimum pour les apprentissages, se fait au détriment de la transmission des connaissances, sachant que cette question ne se pose pas dans beaucoup d'autres établissements et que les écarts de réussite et de destin scolaire se creusent.
Un dernier mot,
qu'est-ce que... Et comme M. Delorme nous a dit qu'il le condamnait, une des propositions du rapport, c'est que quand un élève quitte le collège, le recteur puisse le vérifier.
Absolument. Ça, par contre, je ne suis pas d'accord.
Eh ben oui, mais c'est là où il y a peut-être un problème.
Et on n'est pas d'accord du tout.
Si on est d'accord sur les objectifs, il y a un moment, il faudra trouver un moyen pour...
Mais il y a d'autres moyens que ça, je peux vous le dire. Il y a d'autres moyens que ça que je vais vous dire. Merci
beaucoup. Merci en tout cas d'avoir accepté de débattre de cette question, visiblement déjà très chargée, et historiquement depuis très longtemps. Et nous continuerons à nous intéresser à cette question, parce que je pense qu'il y aura des suites à cette discussion. C'était le temps du débat préparé ce soir par Roxane Poulain, Mathias Mégy, Fanny Richet, Anouk Sevno, Stéphanie Villeneuve, réalisé par Laurence Malonda, avec Ludovic Auger à la technique.